Dans notre cinquième et dernier épisode consacré à l'année 1993. En voici le programme, le collabo Bousquet assassiné par un fou, la dernière mine de fer de Lorraine qui ferme, tandis que le film Germinal rend hommage aux mineurs, et le Titanic qui livre encore des secrets.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1993.
Le 8 juin 1993, un appel complètement délirant parvient à la rédaction d'Europe 1.
Allô ? Europe 1 ? J'ai tué cette ordure de René Bousquet, chez lui, ce matin. Je m'appelle Christian Didier, et je vous convie à une conférence de presse. Je vais tout vous expliquer.
Et il ne ment pas. Il vient vraiment de tuer Bousquet, ex-secrétaire général de la police de Vichy, responsable de la rafle du Veldiv. Il devait être jugé dans quelques mois pour crime contre l'humanité. Évidemment, un journaliste d'Europe 1 se précipite au rendez-vous fixé par le tueur. La police ne l'a pas encore arrêté. Et donc, il raconte comment, quelques heures plus tôt, il a sonné à la porte de l'appartement parisien de Bousquet.
Alors il m'a ouvert, là je suis monté, il a un gros berger allemand, et le berger allemand c'était un jeune berger. Si le berger m'avait sauté dessus, ça m'aurait été obligé de me défendre, mais le chien s'est sauvé quand il a entendu le premier coup de feu.
Et c'est monsieur Bousquet qui vous a ouvert?
Il m'a ouvert lui-même. Ah ben j'ai reconnu de vue parce que j'avais vu sa photo à la télé plusieurs fois, et puis en plus je me suis adressé, je lui ai dit monsieur René Bousquet, voici monsieur René Bousquet, pour être sûr que je ne tuais pas quelqu'un d'autre, voici vous concernant, tel papier, tout le monde. Bon. Il avait l'arme cachée dans la sacoche, ce que je vous ai montré. Ben, je vais vous passer ces documents qui sont nécessaires, vous devrez en prendre connaissance, les lire et les transmettre lors de votre convocation au procureur. Donc j'ai pris la main, au lieu de prendre des documents, j'ai sorti le revolver, j'ai tiré à bout portant, il a foncé sur moi, il avait vraiment une énergie inouïe, ce type-là. J'ai tiré une deuxième fois, il a continué à foncer sur moi, une troisième fois, il a commencé à enchancer, mais il courait encore sur moi, et la quatrième fois, là j'ai tiré dans la tête ou dans la nuque, je sais pas, j'ai pas bien vu. Et là il est tombé, le sang qui pissait, avec le truc dans la main, avec le papier dans la main.
Et après le récit du meurtre, Christian Didier raconte au journaliste pourquoi il a fait ça.
Je répète ce que peut inspirer comme horreur. Un type qui s'est amusé avec le sourire à serrer la louche des Allemands, enfin de la Gestapo, et disons de ceux qui étaient chargés de l'élimination des Juifs, de l'épuration ethnique, en disant les Juifs textuellement, vous en faites pas, les Juifs vont s'en charge, alors que la Gestapo elle-même n'avait pas exigé les enfants. Lui, il a envoyé 20 000 Juifs, dont 5 000 enfants dans les camps. Et ce type-là, il est encore dehors. Moi, j'ai un ami qui était d'enfance, donc dont le père, il s'en est jamais remis, a été assassiné comme ça. Et puis, j'ai mis 6 mois à me décider, parce que c'est dur de tuer quelqu'un, je vous assure, moi je ne suis pas un assassin. C'est dur de tuer quelqu'un, mais j'y suis arrivé.
Il dit aussi que son geste est une victoire du bien sur le mal.
Parce qu'à un moment donné, j'ai eu comme une révélation, j'ai eu une prise de conscience, et c'est ce qui m'a donné le courage d'aller jusqu'au bout, en me disant, tu vois, si tu fais ça, puisqu'on ne t'écoute pas à la presse, ce que je vais vous lire, n'écoute pas cette chose, et que c'est de la plus grande importance, eh bien tu vas faire le nécessaire, tu vas faire un geste, au moins un geste qui soit honorable, parce que je considère que d'éliminer un monstre comme ça ne peut être qu'honorable, c'est la victoire du bien sur le mal.
Mais assez vite, il apparaît que Christian Didier travaille du chapeau. Il est agité, il est exalté. Et on ne comprend pas tout ce qu'il dit.
Moi, l'essentiel, c'est un message que j'ai à faire passer. C'est un message qui s'adresse au monde entier. C'est un message de sauvegarde de l'humanité. Et que le geste que j'ai fait, donc d'assassiner cette ordure-là, bon, ça m'a plus ou moins traumatisé dans mon enfance et tout. Disons qu'il y a des choses qu'on ne peut pas supporter sur Terre et qui laissent des traces indélébiles, des blessures psychiques, disons, qui ne se referment jamais.
Dans votre histoire, d'où vient cette haine que vous avez pour Bousquet, pour ces monstres dont vous parlez?
Cette haine me vient certainement parce que moi je suis né en 1944 dans une région où il y a eu beaucoup de morts au niveau de la résistance. J'ai lu des émissions là-dessus. J'ai pensé à surtout Jean Moulin, parce que vous savez que j'étais dans la cellule de Jean Moulin, c'est dingue. Quand j'ai été arrêté, l'infirmière des lieux de la prison, je me trouvais dans la cellule de Jean Moulin, et je me disais, tu vois comme t'es bien, t'entends un son de clé dans ta porte, putain, un son de clé dans ta porte, c'est parce qu'on vient t'appeler pour le parloir, ou pour l'avocat, ou pour le réfectoire, ou pour la promenade. Attendez, ne me coupez pas.
Non, mais pour comprendre.
Après, je vous répondrai, je peux pas dire. Mais je disais, Jean Moulin, lui, chaque fois qu'il entendait dans sa serrure une clé comme ça, il savait pas que de l'autre côté, s'il retrouverait sa cellule et dans quel état. Et faire souffrir des gens comme ça, c'est pas tolérable.
Et finalement, Christian Didier finit par lâcher le morceau. Il est malade psychiatrique.
Cette vocation, elle peut paraître un petit peu tardive, votre vocation de justicier, là. Comment
vous... Mais j'ai pas de vocation de justicier, monsieur, ça fait des années que j'ai ça en tête. Barbie, c'est en 87 que j'essaie de le tuer, c'est pas d'hier que je voulais tuer des gens comme ça. J'ai des tas de problèmes psychiques, je ne vous dirai pas quoi, mais à l'origine, inguérissable, blessure psychique, malaise existentiel, malaise psychique, je suis suivi par un psychiatre depuis 10 ans. Donc la vie est devenue un enfer pour moi. Je me suis dit, la manière d'en sortir, c'est de faire quelque chose qui servira à l'humanité. Même si je tue un monstre, je suis désolé, j'ai même souffert, parce que j'ai vu ce mec-là qui se tordait. J'ai souffert, même que c'était une ordure, mais je me disais, tu te rends compte de ce qu'il a fait souffrir en s'en foutant complètement, en se saoulant la gueule, en ayant les meilleures places et les trucs, et ce mec-là qui vit dans le 16e et tout. Je crois que tous les gens qui ont été victimes de ce type-là ou leurs familles qui n'ont jamais revu seront les premiers à me comprendre.
À l'issue de cette conférence de presse totalement surréaliste, Christian Didier est arrêté par la police. Et le pire, c'est que les déportés sont furieux.
J'estime que cet homme, malgré tout de ce qu'il a fait, c'est quand même un homme. Il a dû souffrir jusqu'à présent de ce qu'il a pu faire quand il était plus jeune. Et à 84 ans, je pense qu'on peut quand même laisser les gens, malgré leur passé, de faire... de les laisser. Et pour moi, il est trop tard. Il est trop tard. Maintenant, je suis d'accord qu'on ne peut pas oublier ce qui a été fait, mais ce n'est pas une façon pour moi d'oublier, parce que moi, ça me peine énormément. Je suis donc une ancienne, je suis déportée avec mes parents. Ma mère est morte dans les camps et j'ai subi toutes les sévices. L'Holocauste, je l'ai vécu. Les wagons plombés, je l'ai vécu. Pour le dire, pour les historiens, que ce passé reste, mais pour le respect de ceux qui sont morts, comme je pense à mes parents, et je pense que j'ai assez souffert moi-même, avec toute ma famille et tant d'autres, eh bien je suis contre cette chose. Ça me peine plutôt qu'autre chose.
Et le président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme pense exactement la même chose. À cause de Christian Didier, René Bousquet ne sera pas jugé pour crime contre l'humanité.
Nous regrettons ce geste car de bourreau, il va passer maintenant en victime. Et pour nous à la LICRA, qui avions lutté depuis de nombreuses années pour que toute la vérité soit faite sur la véritable responsabilité de René Bousquet dans la déportation des Juifs de France au poste qu'il occupait à Vichy, c'est maintenant un dossier qui va être clos et nous ne saurons jamais la vérité. Donc nous regrettons que l'instruction ait enduré et que cette affaire n'ait pas pu aller à son terme.
Désolé aussi de cette issue, l'avocat Serge Klarsfeld, qui traque les collaborateurs nazis et qui devait être partie civile au procès de Bousquet.
Nous déplorons un acte de vengeance dont les conséquences seront négatives. Et nous sommes navrés que la violence dans un pays, disons, démocratique, où il existe une justice, soit abattue. Mais nous voulions qu'il soit jugé, parce qu'à travers ce procès, c'était la politique anti-juive du gouvernement de Vichy, puisque toute l'action anti-juive reposait sur les épaules de Bousquet. Au lieu d'un grand procès historique, on a un règlement de compte.
2 ans après l'assassinat, Christian Didier sera jugé et il prendra comme avocat un certain Arnaud Montebourg.
Christian Didier a conscience qu'il a tué un homme, mais aussi un symbole d'une France qui refuse de regarder son histoire et ses propres crimes en face, qui a occulté pendant 50 ans ses crimes, et il en est conscient, mais en même temps, il sait ce que recouvre son geste et les conséquences que intérieurement lui ressent.
Pour le meurtre de René Bousquet, Christian Didier sera finalement condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Interrogé le soir même sur Europe 1, il reconnaît que son geste était une hérésie.
Je n'avais pas conscience du fait que j'amputais les Juifs d'un procès auquel ils tenaient comme la prunelle de leurs yeux. Je n'avais pas conscience de cela. Et c'est en prison que je l'ai appris. Et là, j'ai vraiment regretté d'avoir fait ça parce que, disons, que je me substituais à la justice de Dieu, à la justice des hommes. Ce n'était pas à moi de jouer les justiciers. Et j'aurais mieux fait de rester tranquille. C'était un geste mystique, disons. Je m'imaginais que c'était ma mission sur Terre, que je devais effacer cette tache noire de la France. J'ai été pris d'une crise de mysticisme, aussi de délire. C'est venu graduellement, petit à petit. Ça a pris forme dans mon esprit. Et ensuite, j'étais convaincu de cette mission que je croyais être la mienne. Et j'ai donc agi. Mais après coup, quand j'ai réalisé, je me suis aperçu que j'avais fait quelque chose de fou, quoi. Un geste de folie, de délire.
Et maintenant, il faut que je vous raconte. Avant de tuer Bousquet, Christian Didier a eu une vie très agitée. D'abord, 13 ans plus tôt, il a écrit un livre, récit de ses voyages en Australie. Mais personne ne voulait l'éditer. Alors il a marché de Strasbourg à Paris, affublé d'une pancarte, Christian Didier cherche éditeur. Ça a fait un tel buzz que Philippe Bouvard l'a invité à la télé.
Vous êtes dit, essayons de débloquer le système en faisant de la promotion, de la publicité, en créant un événement.
Voilà, j'ai voulu créer l'événement et j'ai cherché effectivement dans cette création d'événement, parce que j'ai réfléchi longtemps à ça, un fait insolite qui a un impact et qui intrigue par son côté insolite, disons, la grande masse.
Oui. Alors, quelles ont été les réactions tout au long de votre route ?
Eh bien, je veux dire qu'en majeure partie, la réaction la plus courante, ça a été la curiosité. Dans ce sens, je pense que l'effet que je recherchais a été favorable.
Vous avez eu des articles ?
Des articles, j'en ai eu une dizaine dans
la presse locale.
La presse locale de tous les journaux.
Les régions traversées.
Les régions traversées.
C'est-à-dire, il y avait des journalistes qui venaient marcher un peu avec vous pour vous interroger ?
Non. Pas jusque-là, ils ne se déplaçaient pas, mais moi, j'allais les chercher. J'allais directement à leur bureau, à leurs agences.
Il a fini par publier son livre à compte d'auteur. Et pour en faire la promotion, il s'est incrusté sur les plateaux d'émissions en direct, comme ici chez Guy Lux.
N'ayant pas réussi à passer apostrophe, il a décidé de ne plus demander d'invitation pour venir présenter son livre à la télé. À l'aide d'une fausse carte de presse, d'un appareil photo et d'un solide baratin, il a déjà tenté et parfois réussi à squatter plusieurs dizaines d'émissions.
En tête des box, mais des box office. Du top 50.
Nous allons rejoindre Christian Didier, l'auteur de la balade d'Early Bird, qui vous dit ce soir que dans 4 millions d'années, la Terre...
Oui, d'accord. Attendez, Christian Didier, vous courez dans la 5e et pas dans la 4e pour l'instant.
Il a aussi déboulé dans des meetings politiques. Il s'est enchaîné au restaurant Le Fouquet, sur les Champs-Élysées. Malgré toute son énergie, la carrière de l'écrivain Christian Didier ne décolle pas. Et comme son désir de notoriété est plus fort que tout, 6 ans avant l'assassinat de René Bousquet, il tente de tuer le nazi Klaus Barbie dans sa prison de Lyon.
Pour cela, il se déguise en médecin, produit de faux documents, passe la première porte, mais sous le portique de détection, un surveillant découvre son revolver. Je voulais, explique le prévenu, simplement lui tirer dans les jambes, faire un geste symbolique. Quelque chose me poussait à agir contre ce tortionnaire.
Enfin, il a aussi envisagé de tuer le collabo Paul Touvier, mais il n'a pas trouvé son adresse. Et voilà comment il en est arrivé à René Bousquet.
Feeling a little peculiar.
C'était le groupe de rock californien Four Non Blondes avec leur carton planétaire de 93, What's Up.
1993, on de la traconte sur Europe 1.
En 1993, pour faire face à la surpopulation des grandes villes et la désertification rurale, le gouvernement veut lancer le télétravail.
Journal. Jean-Yves Chaperon, Vincent Parisot.
Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, a donné aujourd'hui un coup de pouce au télétravail. Pour M. Pasqua, le travail à distance devrait constituer un début de solution à l'engorgement des grandes villes, à la pénurie de logements et aux trajets inutiles. Ainsi, il a lancé un appel d'offres avec la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire. Un soutien financier sera apporté aux projets de télétravail les plus innovants.
Charles Pasqua affiche même un objectif. 100 000 personnes en télétravail.
Il s'agit maintenant de passer à la vitesse supérieure et d'inciter tous ceux qui le veulent à participer à ce concours en vue de commencer à lancer le télétravail. Alors, nous attendons beaucoup de cet appel à projet et je rappelle que la DATAR est prête à soutenir financièrement un certain nombre d'actions qui seront conduites. Alors que chacun, maintenant, fasse un peu appel à ses méninges et à son imagination. Le télétravail va inverser le processus qui a conduit pendant des décennies les salariés, les travailleurs, à aller chercher ailleurs les conditions de leur promotion et l'emploi. Il s'agit de faire l'opération inverse. Il s'agit de ramener le travail au niveau des populations et non pas l'inverse.
Finalement, on est assez loin de l'objectif de 100 000 télétravailleurs, puisqu'en 1993, 2 700 Français seulement optent pour le travail à distance. Parmi eux, Alain, ingénieur technico-commercial chez Intel.
Donc voilà, ici c'est ma chambre, en même temps c'est mon bureau, c'est là où je passe à peu près 50% de mon temps de travail. Donc à utiliser mon micro-ordinateur en connexion avec l'entreprise. Et puis donc j'ai une fax, j'ai un téléphone et puis j'ai une imprimante laser pour imprimer des documents papier.
Avantage du système, quand il n'est pas en rendez-vous en extérieur, cet ingénieur commercial qui vend des microprocesseurs gère son temps de travail à sa guise, chez lui, loin de sa société. Tout se passe par micro-ordinateur et dans le calme du lieu.
Il y a 2 ans, donc jamais j'aurais pu imaginer que je serais à la fois au travail et à la fois chez moi, si vous voulez. Donc qu'on aurait une certaine qualité de vie et puis en même temps, tout en gardant une bonne efficacité professionnelle.
Est-ce que cet ingénieur s'est payé une imprimante couleur pour télétravailler ? En tout cas, c'est en 93 que l'imprimante couleur débarque à la maison. Jusque-là, elle était réservée aux professionnels. Des machines énormes.
Quand le bureau s'offre des couleurs le lundi, vous savez que nous suivons de près l'actualité de l'informatique. Voici ce soir le constructeur d'imprimantes américaines QMS qui fait des siennes. Son dernier né à Bodmin, la première imprimante laser couleur de bureau.
Sa caractéristique principale, c'est une innovation au niveau de l'impression. Toutes les imprimantes couleurs aujourd'hui impriment la feuille en 4 passages. On imprime les 4 couleurs, c'est-à-dire le cyan, le magenta, le jaune et le noir successivement. La QMS, pour la ColorScript Laser 1000, imprime la feuille en une seule fois, ce qui fait que les couleurs sont très précisément superposées. On a une très très bonne qualité d'impression.
Donc on gagne en qualité, en rapidité également ?
En rapidité également, puisque la feuille ne fait qu'un passage. Donc pour une feuille couleur, la durée d'impression est de 30 secondes.
Autre nouveauté de 1993, un serveur Minitel qui s'appelle 3615 FUM. F-U-M. Et qui permet d'envoyer à ses pires ennemis des colis de fumier.
Vous avez quelqu'un à qui vous voulez faire une surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, donc vous servez de 3615 fume et donc le lendemain, puisque ça part en service rapide, le lendemain la personne reçoit un colis et lorsqu'elle ouvre le colis, à l'intérieur il y a un paquet transparent, on voit à peu près qu'est-ce que c'est, mais c'est quand même un petit peu mystérieux, donc et lorsqu'on ouvre, on se retrouve nez à nez avec du fumier, puisque c'est un envoi de fumier. Vous avez 2 tailles, vous avez le petit modèle qui fait 450 grammes en net de fumier, et le grand modèle fait 950 grammes.
Et ça marche, figurez-vous.
D'après les premiers appels, avez-vous une idée de la clientèle ?
eh bien, on a été étonnés. Pour l'instant, la clientèle en majorité est féminine. Et c'est pour l'instant la majorité de nos envois qu'on a pu contacter, puisqu'on a beaucoup d'envois sans message qu'on ne peut pas, je dirais, où on ne peut pas avoir des estimations à savoir à quoi exactement ils ont servi. On a beaucoup d'appels de femmes apparemment remerciant des ex-petits amis apparemment. Un exemple de message, bien à toi, et c'est signé Monique.
Français Native avec son titre « Si la vie demande ça », un premier single qui atteint en 1993 la 9e place du top 50, ce qui vaudra à Native de recevoir la victoire du groupe de l'année.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1993.
En 1993, une page se tourne en Lorraine. La dernière mine de fer, celle de Moyeuvre, ferme. Elle a employé jusqu'à 40 000 mineurs dans les années 60. En 1993, ils ne sont plus que 350.
Dans le monde entier, quand on parlait de la Lorraine, c'était les mines de fer, mines de charbon, c'était la sidérurgie. Maintenant, on arrive à un stade où il n'y a plus rien.
Alfred Gaillardot, 30 ans de mine.
Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait quand même, on peut dire, une mine par ville. Partout, il y avait des mines, Juromont, Jarny, etc. Et ça crée une certaine prospérité. On a l'impression qu'on arrive dans un tunnel sans fond, là. On est là, dans le trou. Et on se demande qu'est-ce qui va se passer.
Le minerai de fer sera dorénavant importé du Brésil ou de Mauritanie. Et en Lorraine, le coût social est terrible.
La fermeture des mines engendre un gros problème économique dans notre région, parce qu'il ne faut pas voir simplement la mine en elle-même, il faut voir tout ce qu'une mine fait fonctionner autour. Et ensuite, la mine était quand même une garante de la sidérurgie lorraine. Tant qu'on a le minerai lorrain, la sidérurgie lorraine s'appuie sur des ressources locales. Donc cette dernière fermeture de mine, eh bien, pour moi, elle est alarmante. Elle sonne la fin d'une grande période d'expansion de notre région. On ne peut que le regretter.
Au moment où on ferme la dernière mine de fer de Lorraine, Claude Berry tourne son film Germinal, adaptation du célèbre roman d'Émile Zola. L'histoire la voici. À la fin du 19e siècle, Étienne Lantier, un machineur au chômage, trouve un emploi à la mine Le Voreux dans le nord de la France.
Évitons le massacre. Essayons de nous entendre. Je crois que vous pouvez comprendre notre colère.
Au large, ne me forcez pas à faire mon devoir.
Vous n'allez pas tirer sur les femmes et les enfants ? Nous sommes sans armes. Allez, laissez-nous passer, soyez raisonnables.
Au large, je n'ai rien à entendre. J'ai l'ordre de garder ce puits et je le garderai. Et n'avancez pas sur mes hommes ou je saurai vous faire reculer.
Allez-vous-en ! Nous n'avons rien contre vous, allez-vous-en !
Laissez-nous régler nos affaires entre nous !
Faut que je passe ! Faut que les chevaux mangent leur Rawen ! Ils se foutent de la révolution, les chevaux !
C'est bon, passé.
Le budget de Germinal est absolument colossal, 165 millions de francs, car il a fallu reconstituer le décor de la mine. Et c'est un record pour un film français. et une sacrée aubaine pour le nord de la France.
Quelques 10 000 cachets de figurants, c'est toute la région du Nord qui vibre depuis des mois à l'occasion de ce tournage dans le Valenciennois. Beaucoup d'anciens mineurs sont partie prenante, comme René Lukasiewicz, une vie passée dans les galeries. Claude Berry lui a donc demandé de reprendre sa pioche devant les caméras. Le réalisateur a aussi pris l'habitude de consulter René Lukasiewicz.
J'ai travaillé quand même 32 ans au fond. Lorsque j'ai commencé la mine, j'avais encore une certaine partie des galeries qui existaient en 1900. Donc je lui ai donné certains conseils, certaines choses. Je pense que ça l'a aidé dans le film. Je pense que ça a bien marché.
René a vu le film et il est stupéfait par son réalisme.
Ah oui, ça c'est formidable. Je tire mon chapeau au décorateur parce qu'il est formidable. Il est formidable lorsqu'on voit les galeries et tout ce décor. C'était inimaginable de voir ce décor, de quelle façon il allait procéder et tout.
Et alors les gestes reviennent ?
Les gestes des mineurs reviennent systématiquement, oui.
Vous ne pensiez pas que votre carrière de mineur allait vous donner l'occasion de côtoyer quelques plus grandes vedettes du cinéma français, hein ? Ça se passe bien avec elles ?
Oh, très très bien, très très bien. Au départ c'était difficile pour nous parce que c'était la première fois qu'on voyait des acteurs, c'est important. On croyait que c'était des gens difficiles à vivre, c'est faux. C'est à partir du moment où on fait connaissance avec eux, on discute avec eux, et même eux nous demandent des conseils vis-à-vis du film, sur les mineurs, sur la vie des mineurs, c'est formidable, c'est bien.
Les vedettes de Germinal sont Miu Miu, Gérard Depardieu, Jean Carmet et Renaud, qui tient le rôle du héros, Étienne Lantier.
Il ne tient qu'à nous de changer ce monde pourri, de faire régner le bonheur sur Terre, l'égalité.
C'est des rêves. Est-ce que les bourgeois consentiront jamais à travailler comme nous ?
Il faudra bien les amener à la raison. À chacun selon ses mérites, à chacun selon sa fin.
Mais Étienne, c'est pas avec de la raison qu'on y arrivera. Ni avec des palabres, c'est avec le sang. Et pour que ça change, il faut que ça saigne.
Notre force, c'est le nombre. Devant la colère des ouvriers, les patrons céderont. Ce sera plus long. Mais à la souffrance, il faut éviter de rajouter le prix du sang. Pierron, t'as oublié de me payer ta cotisation ce mois-ci.
Ah oui, j'ai oublié. C'est pour ça que je suis venu.
Un jour, vous verrez. Tout cet argent sera pas un sacrifice inutile. On en aura besoin.
J'aurais pas à mourir avant d'avoir vu tout ça.
À la sortie du film, en septembre 1993, une grande avant-première est organisée à Lille, en présence des acteurs et des anciens mineurs qui ont été figurants, et même en présence du président de la République, François Mitterrand.
Europe Midi, suite Elisabeth Martichoux, Stéphane Paoli.
Et donc cet événement, parce que c'en est un pour de bon, hein, l'événement Germinal hier soir à Lille, le film de Claude Berry a été présenté en avant-première en présence du président de la République, M. Mitterrand, qui s'est d'ailleurs abstenu du moindre commentaire. Il a simplement, paraît-il, glissé à Renaud, qui interprète Étienne Lantier, c'est-à-dire le meneur de la révolte dans les mines, « C'est un très beau film, vous êtes formidable ». Fin de citation, je referme les guillemets. L'émotion, dit-on, était perceptible hier soir dans le public. Les nombreux mineurs invités étaient souvent bouleversés. Vous aviez la chance d'y être, Michel Grossiore.
Oui, et c'est vrai que les nombreux mineurs qui étaient là ont chaleureusement applaudi. C'était sans doute le moment le plus fort de cette soirée. Ces anciens mineurs qui retrouvaient les gestes d'un métier aujourd'hui révolu, ce souffle qui traversait la salle du Palais du Nouveau Siècle à Lille, donc lorsque sur l'écran le Voreux, c'est-à-dire le puits, explose, lorsque le Maheu de Paris Dieu tombe sous les balles des soldats appelés par les patrons pour protéger la mine.
Les mineurs sont enchantés par l'expérience et les comédiens, comme ici Miu Miu, aussi.
Il s'est passé une solidarité, puisqu'il y avait quand même des conditions difficiles de tournage, une fraternité, quelque chose de chaud, de vivant, de magnifique. Et comme ils étaient concernés complètement par le film, même plus que nous, de par leur histoire, ils nous ont, comment dire, donné cette histoire, ils nous ont chargé de la transmettre. Je pense, en voyant le film, que ce ne sont pas des personnalités, on ne peut pas dire un tel, un tel, un tel, je pense que c'est tout le Nord et surtout les mineurs.
Et Miu Miu d'expliquer que si elle a tourné dans ce film, c'était aussi pour transmettre à ses enfants les valeurs de l'humilité et du travail.
On a envie aussi un petit peu d'expliquer d'où on vient à ses enfants. Et que c'est un milieu social qui est comme ça, qui est d'avoir toujours travaillé intensément, d'avoir toujours dû gagner son pain et avoir un mal de chien bouclé les fins de mois. Et j'ai eu envie un peu de leur expliquer, non pas que ma famille soit de la mine, mais d'un milieu social aussi un petit peu, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, pas misérable, simple, pas oui. du tout, mais ouais. plus simple, et on sait ce que c'est que gagner son pain, quoi.
Dans le film, Renaud incarne l'un des meneurs de la grève. Et lui, c'est à son père, fourreur polonais et militant communiste, qu'il voulait rendre hommage.
Mary m'a tanné pendant 2 ans, j'avais pas envie de faire l'acteur, je croyais pas en mes capacités professionnelles. Et il a fini par obtenir gain de cause, j'ai fini par accepter le rôle. C'est une manière de retrouver mes origines, mes sources, mes origines maternelles dans le nord de la France, et de rencontrer des vrais mineurs. Je n'avais connu jusqu'à présent comme mineur que mon grand-père Oscar.
Cela dit, Renaud ne garde pas un très bon souvenir de ce tournage. D'abord, il n'est pas content de sa prestation. Il se trouve mauvais. Et puis, il a des états d'âme. Dans le film, il joue les révolutionnaires, alors qu'en vérité, lui pète sur le velours. Alors, pour se rattraper, sur le tournage, il a mené la fronde avec les figurants.
Sur le film, je suis d'ailleurs devenu un peu le lentier que j'étais dans la fiction, puisque j'avais pris la tête du comité de révolte des figurants pour protester pour de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires. Donc j'ai foutu un peu la zone sur le plateau. C'est le côté lentier qui ressurgissait.
Renaud n'est pas trop content du tournage de Germinal, mais il reconnaît que sa rencontre avec les anciens mineurs l'a bouleversé.
Ben, j'ai aimé ces gens parce que c'était des ouvriers, c'était le prolétariat digne. Ils m'ont appris leurs chansons, leur folklore. Bon, ils m'ont donné envie de les chanter, ce que j'ai fait par la suite. Enfin, en même temps que le tournage de Germinal, j'ai enregistré un disque de chansons du Nord en patois. Le naturel est revenu au galop, j'ai chanté en patois alors que je ne parlais pas le ch'timi ou très peu. Quelques mots par-ci par-là, entendus en famille.
Et voilà ce que ça donne quand un titi parisien épouse la culture ch'ti.
D'un chez Coron, cœur me ménage. Chez mineurs viennent d'avoir le congé. Prennent le valise et partent voyager. À la campagne, ouvrir le parenté. Mais comme elles autres, je prends mes bagages. Et je m'en vais, mais je quitte point ma patelin. Je vaux du pays, de la manière que je m'y prends. Sans débourser un sou de train. Et je passe mes vacances tout en haut, le ch'terri. J'ai tout dit de la chance, je t'ai raillé, jamais pris. Je monte comme toi le tente, je vis tout seul et je m'arrange. Et je siffle, je ris, je cante, et je suis heureux de faire du campinche. Je me fais la popote, je vis bien mieux qu'à l'hôtel. Je mets comme les cocottes du rouge à mes orteils. Du haut des couplettes, j'aime croire Chambéry. Mais je ne suis qu'au fait tout un haut de ch'terri. Comme point de vue fauvirche que je dégote. Les beaux, les prairies des environs, chez village, chez ville, nos corons. Et je mange le ça ne me coûte pas un rond. Sur ma feu de beau, je fais tout me gargote. Viande, ox, pommes, tire, frites, morceaux de lard. Et j'ai monté, trinche un clito de pinard. Pour m'y chucher un père peinard. Et je passe mes vacances tout en haut de ch'terri. J'ai tout dit de la chance de vierge que je vaux chez ta mine. Quand t'arrives le soir, et je vaux venir d'amoureux. Ils attendent qu'il fèche noir, mais mi, je ne les quitte pas les yeux. Ils vont s'en lassant, stigeant des balivernes. Tout en s'embrassant d'un chez blé, d'un chez luzerne. Ils se font les papoules, un s'appelant, un chéri. Et mi, je vaux tout chat, tout en haut de ch'terri.
C'était Renaud qui honore le schnorr en ch'ti.
1993, On de la traconte sur Europe 1.
En 1993, une mission franco-américaine baptisée Titanic 93 part explorer l'épave du paquebot englouti. Ça n'est pas une première, hein. La première descente sur le Titanic remonte à il y a 6 ans. Mais cette fois-ci, les plongeurs sont équipés d'un nouveau sous-marin, le Nautile.
Un Nautile encore plus performant,
doté de super caméras et surtout d'un tout nouveau système d'éclairage, doublant le champ de vision. Les pilotes du Nautile, et parmi eux Paul-Henri Nargelet, ne croyaient pas revoir un jour le vieux géant des mers. Ils l'ont approché avec la même émotion qu'il y a 6 ans. Cette épave-là n'est vraiment pas comme les autres.
Ah ben justement, c'est ce qui est surprenant, c'est qu'on a beau venir, revenir, on s'est tous un peu posé cette question-là, se demander si, on avait vu une fois, est-ce que ça suffisait pas. Et puis pas du tout, non seulement on est tous contents d'être venus, mais l'impression est toujours la même. Vraiment, c'est un bateau absolument fabuleux.
On se sent vraiment tout petit, nous, avec notre petit sous-marin qui fait 9 mètres de long par rapport à une épave aussi grandiose, et avec cette petite caméra qui fait 1 mètre sur 1 mètre. Sur le coup, on se dit, bon, il faut y aller, il faut promener cette caméra, même si on risque de l'accrocher, ce qui peut se passer d'ailleurs. Mais d'un autre côté, c'est les yeux pour des milliers de personnes qui vont voir ces images et qui vont pouvoir partager ce qu'on a vu en direct sur place.
Cela dit, lors des plongées, il apparaît qu'au bout de 80 ans, l'épave du Titanic se dégrade.
L'épaisseur des tôles de la coque, enfin visible et à l'estimation, sont de l'ordre de 2 cm, voire même à 2,5 cm à certains endroits. Que même des parties qui nous gênaient pour pénétrer un peu dans cette épave et que qui nous semblaient en très mauvais état, nous avons essayé de les déplacer avec une force qui est non négligeable, qui est celle des bras du Nautile. Eh bien, je peux vous dire que ça résiste très très bien et que c'est plutôt nous qui bougeons, alors que même ces débris fragiles, eux, résistaient très bien.
Titanic tiendra encore longtemps.
Je crois bien que mes enfants et mes petits-enfants pourront encore venir découvrir cette merveille.
En mai 1993, pour la première fois, les plongeurs parviennent à guider un robot jusqu'à l'intérieur de l'épave du Titanic.
Un robot piloté par Yann Noir.
Ce qui était tout à fait imprévisible, c'est que une épave qui arrive à des vitesses extraordinaires sur le fond, qui creuse des sillons et des tranchées comme on en a vu, à l'intérieur, on arrivera à trouver des objets, et plus extraordinaire encore, le fait de trouver encore des lustres pendus par leurs fils électriques, c'est assez surprenant. Et puis surtout, c'est l'occasion ou jamais de pénétrer plus loin, de tenter d'aller chercher plus en avant s'il ne resterait pas encore d'autres signes intéressants à l'intérieur de Titanic.
En 15 jours, le Nautile effectue 15 plongées, 88 heures à disséquer l'épave, et la mission remonte près de 800 kilos d'objets.
De nombreux sacs de voyage ont été récupérés, et à l'intérieur, l'objet le plus émouvant est sans doute une clarinette appartenant à un survivant et une partition signée d'un compositeur français. En vrac, un chapeau melon, une machine à café, un cadran de pendule qui pourrait être celui du grand escalier, des cornes de brune, autant d'objets qui rejoindront les autres dans un musée à New York face à la Statue de la Liberté.
Une chose qui me frappe et qui me plaît d'ailleurs, c'est le respect absolument complet du souvenir. Il n'y a absolument pas un esprit de pillage ou de ramassage.
Au même moment, le réalisateur James Cameron installe un studio pour préparer les effets spéciaux de son prochain film, Titanic, justement. Le blockbuster nécessitera 4 ans de travail et sortira en 1997.
Il y a quelqu'un qui m'entend ?
Oui, qu'est-ce que vous voyez ?
Un iceberg droit devant !
Merci.
Iceberg droit devant !
Arrêtez-moi tout, tout !
Barre à fond.
La barre est à fond, monsieur.
Cet extrait du film Titanic de James Cameron conclut ma série consacrée à l'année 1993. Merci à Guillaume Maury, Julien Pichenet et Pierre-Yves Falson pour la réalisation. Ainsi se termine notre série en 5 épisodes consacrée à l'année 1993. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années.
Retrouvez On Delatte Raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.